Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour ce café de reprise. Ça fait tout juste une semaine que la reprise universitaire a sonné, n'est-ce pas ? Ici à l'Université de Neuchâtel, donc café scientifique de reprise. Donc, je suis Pauline Vrolix, je travaille à la radio sur la première. J'anime différentes émissions pour la rédaction Société, notamment une émission qui s'appelle Premier rendez-vous entre 14 et 15 heures. Et puis, je suis reporter pour l'émission Vacarme. Voilà. J'ai un très grand plaisir à vous accueillir pour ce café scientifique, votation, démocratie ou dictature. Et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors pour beaucoup, la Suisse, avec sa démocratie semi-directe, c'est la meilleure démocratie de la planète. C'est un idéal. Pourtant, quand on s'y arrête un instant, tout n'est pas si reluisant. Depuis 2011, dans notre pays, le taux de participation aux votations s'élève en moyenne à 46%. Cela veut dire qu'à chaque scrutin, c'est un peu moins d'un citoyen sur deux qui vote. Alors, si on prend les votations de ce dernier week-end, deux initiatives alimentaires, une autre pour l'inscription du vélo dans notre Constitution. Le taux de participation aussi entre 36 et 37%. C'est encore moins que la moyenne. À peine un citoyen sur trois s'est déplacé aux urnes, sans compter que parfois, ils sont à peine un sur quatre. Alors, pour reprendre l'exemple qui se trouve sur ce flyer, lorsque le taux de participation à un scrutin est de 30%, qu'un objet passe la rampe avec 51% des suffrages, nous sommes là dans une situation où c'est seulement 15 petits pourcents des votants qui décident pour tous. Alors, la démocratie en Suisse n'est donc souvent que l'expression d'une minorité. Quand en plus, comme le rappelaient encore dernièrement mes confrères de l'émission Temps présent, une grande partie de nos parlementaires sont sous l'influence de lobbies surpuissants, multinationales de l'agroalimentaire et du tabac, pour ne pas les citer, que la lutte contre la malbouffe ou la prévention contre le tabagisme piétine depuis des années, que plusieurs élus siègent au conseil d'administration d'assurance maladie, etc., etc., il est aisé de s'imaginer que notre classe dirigeante fait passer ses intérêts privés avant l'intérêt général. Que l'intérêt public soit la loi suprême, c'est pourtant la phrase inscrite en grand dans le hall de notre coupole fédérale. Il est permis d'en douter. Et puis le peuple en doute de plus en plus au vu des taux de participation des votations. Pour ne pas admettre directement que notre soi-disant peuple souverain, c'est du baratin, si vous me passez ce jeu de mots. Alors, sans vouloir verser dans le populisme et avec un brin de provocation, bien sûr, propre à lancer le débat, je vous donne la parole, messieurs. Mais avant ça, j'aimerais que vous vous présentiez brièvement. On va commencer avec vous, Antoine Chollet. Merci de me dire qui vous êtes et quelles sont vos casquettes ce soir dans ce débat.
Donc, alors, je ne sais pas quelles sont mes casquettes, mais j'ai été invité comme chercheur en sciences politiques, en pensée politique. Je travaille à l'Université de Lausanne, notamment sur la démocratie directe. Également le populisme, mais dans un sens un tout petit peu différent de celui que vous venez de donner.
Ensuite, Olivier Christin, allez-vous, à vous.
J'espérais que vous pourriez répondre à cette question, pourquoi j'ai été invité. Parce que je fais peut-être le candide de la table. Moi, je suis historien, mais historien du XVIe siècle, donc d'une période dans laquelle la question de la démocratie ne se pose pas vraiment. Mais j'ai fini par m'intéresser à des choses sur les modes de scrutin, la fabrication de la volonté collective, la règle majoritaire, et donc par retrouver des interrogations qui sont les vôtres, comme historien, et par exemple sur la question que vaut une décision prise par un cinquième ou un vingtième du corps électoral, qui sont des questions qui m'intéressent, mais comme historien.
Nenad Stojanovic.
Oui. Bonsoir, j'ai plusieurs casquettes, une est ici, mais à la maison j'en ai beaucoup. Professionnellement, je viens de commencer comme professeur boursier donc, du Fonds national suisse à l'Université de Genève, après avoir été à Lucerne. À Genève, j'ai un projet qui s'appelle « Une théorie non populiste de la démocratie directe », qui comprend également un volet d'une expérience de terrain où on va essayer d'appliquer quelque chose qui existe dans l'État de Oregon. Je peux en parler tout à l'heure, y compris le tirage au sort comme méthode démocratique. Par ailleurs, peut-être ça pourrait être important dans le cadre de ce soir. Je suis membre du comité d'initiative d'une initiative fédérale, l'initiative populaire, pour le tirage au sort des juges au tribunal fédéral. Donc si jamais on peut en reparler. Et puis je termine. J'ai été député au Grand Conseil tessinois jusqu'à 2013, mais ça, c'est derrière moi.
Merci beaucoup. Pascal Mahon.
Oui, merci. Donc, je m'appelle Pascal Mahon, j'enseigne le droit constitutionnel ici à l'Université de Neuchâtel. Et donc, j'essaye d'enseigner ce que c'est que la démocratie à des étudiants en droit. Donc, je suis juriste. J'essaye d'enseigner la manière dont on désigne les juges fédéraux, etc. Donc, c'est des questions qui m'intéressent plutôt comme généraliste, je dirais. C'est des questions qui agitent aujourd'hui, qui provoquent le débat dans nos sociétés, puisque, comme vous l'avez dit, on a des doutes sur la participation, sur le système politique tel qu'on le vit aujourd'hui en Suisse, mais pas seulement en Suisse. Je crois que c'est des questions qui se posent un peu partout. Donc, voilà.
Merci, messieurs. Alors, on va commencer tout de suite. Les votations en Suisse, c'est une démocratie qui fonctionne ou une dictature cachée? Alors, qui veut commencer? Antoine Chollet.
Bon, la question est posée de manière volontairement un peu simplificatrice et provocante, puisque c'est, disons, la démocratie. Moi, j'ai l'habitude de rappeler aux étudiants que ça ne peut qu'être un projet. Donc, lorsqu'on parle de démocratie, on parle toujours de démocratisation et d'une transformation en cours, et non pas véritablement d'un régime ou d'un ensemble d'institutions figées. C'est quelque chose que vous trouvez chez tous les grands penseurs de la démocratie. Vous trouvez ça chez Tocqueville, vous trouvez ça chez Rousseau, vous trouvez ça chez Aristote en Grèce ancienne. Il y a toujours cette idée qu'il y a des institutions en transformation. Donc il n'existe pas de démocratie pure, de démocratie achevée, de démocratie parfaite. Toutes ces choses-là sont radicalement impossibles. Ensuite, de l'autre côté, dictature, non, il faut vraiment aller ou se lever tôt ou aller chercher loin pour qualifier ces procédures de dictature, que ce soit d'ailleurs au sens romain du terme ou au sens moderne qui signifie plutôt tyrannie. Je ne pense pas qu'on puisse parler de tyrannie dans le cas suisse. Et sur la question de la participation, elle s'est reposée dimanche passé puisqu'en effet elle était relativement faible, mais j'en discute avec Nénad dans le train en venant. Bon, si vraiment on a des problèmes avec la participation, on peut faire ce que font les chafouzois, c'est-à-dire mettre 5 francs d'amende à chaque fois, et vous avez une participation de 60%. Donc le problème est à peu près réglé. Mais ce qui est surtout intéressant dans le cas de la Suisse, c'est qu'il faut voir la participation sur l'ensemble d'une législature. Et j'ai des collègues politologues qui ont fait le test. Apparemment, même si c'est un chiffre qui est un tout petit peu difficile à trouver, mais 9 personnes sur 10 votent au moins une fois sur une législature. Donc 90% de participation au moins à un référendum sur l'ensemble d'une législature. Ce qui fait évidemment une participation beaucoup plus importante que dans d'autres pays, puisque dans les autres pays, on ne peut pas participer à des référendums dans la plupart des cas, sauf en Angleterre de temps en temps, mais ils vont peut-être arrêter. Et puis bon, dans certains États américains, bien sûr, où d'ailleurs la participation est beaucoup plus faible qu'en Suisse. Et cela signifie donc que la participation dépend d'une part du niveau d'information des citoyens, de l'intérêt des citoyens et des citoyennes pour la question qui est posée, et du sentiment de compétence. C'est quelque chose que les collègues politologues ont montré aussi assez clairement, le sentiment de compétence par rapport aux questions qui sont posées. Donc il y a un choix sur la participation. Et on peut prendre les exemples extrêmes, c'est-à-dire peut-être dimanche passé d'une part, et même s'il y avait eu quelques votes un petit peu avec une participation encore plus faible, et le vote sur les haies en 1992, presque 80% de participation, le vote sur la suppression de l'armée en 89, où il y avait presque 70% de participation, et si on remonte encore un peu plus loin, il y a des exemples dans l'entre-deux-guerres avec des taux de participation à 90%. Donc il peut y avoir une participation aussi importante. Ça a d'ailleurs été un peu le cas sur les votes sur l'AVS, où la participation est toujours assez forte, et qui, d'une certaine manière, sont plutôt rassurants. Ces exemples sont rassurants par rapport à ces taux de participation. Parce que si... D'une certaine manière, si les citoyens et citoyennes souhaitent voter, ils peuvent le faire. Et en plus, avec des obstacles matériels qui sont extrêmement faibles en Suisse, si l'on compare les modalités de vote en Suisse et dans certains quartiers pauvres des villes américaines, on comprend que la notion, enfin, on peut comprendre ce que signifient les obstacles matériels au vote. Lorsque vous devez faire 3 heures de file d'attente un mardi, c'est-à-dire un jour de travail pour voter, il y a des personnes qui sont exclues du vote de fait. Alors qu'en Suisse, voilà, vous avez votre enveloppe, vous pouvez la renvoyer. Alors maintenant, il faut mettre un timbre dans la plupart des cantons, mais vous pouvez aussi aller à l'hôtel de ville pour amener votre enveloppe de vote. Les obstacles matériels sont limités, disons. Il y a des obstacles sociologiques, etc., qu'on connaît et qu'on retrouve dans tous les pays, mais
donc
les obstacles matériels sont... Non, j'ai commencé par dire qu'il y avait des améliorations. Moi, je suis un promoteur d'amélioration dans la démocratie directe, avec de nouveaux outils, avec des règles sur les campagnes, avec des journées de débat auparavant. Ça, on est tout à fait clair et je peux les détailler. Mais disons qu'il faut faire attention à ne pas dresser un tableau trop sombre de la démocratie directe, parce que la conséquence, ça j'insiste lourdement là-dessus, la conséquence, ce n'est pas de renforcer la démocratie directe, de l'attaquer sur ces termes-là, mais c'est plutôt de l'affaiblir et de donner des outils ou des arguments aux personnes qui considèrent que la démocratie directe est une farce et que, par conséquent, on peut s'en débarrasser.
Olivier Christin, vous opinez du chef ?
Oui, même si moi je peux parler que d'une situation que je connais mieux, qui est la situation française, donc qui est très très éloignée. Et ces critiques sur « nous vivons dans une dictature », on les entend en France depuis quelques années, qui sont des critiques adressées à un tout autre système, qui est le système, le régime représentatif et le système parlementaire français, où maintenant une partie des électeurs, on est presque à 40% dans les derniers sondages, pense qu'il y a de meilleurs systèmes politiques que la démocratie, que notamment des régimes politiques autoritaires ou démocratie illibérale, etc., seraient mieux pour gérer le pays, mieux pour gérer les intérêts économiques, mieux pour gérer le maintien de l'ordre ou la lutte contre l'immigration illégale ou le terrorisme, peu importe les raisons invoquées, mais on voit une montée régulière. Et donc, ça rejoint exactement ce que disait Antoine Chollet, c'est-à-dire que c'est précisément ceux qui disent que nous vivons dans une dictature parce que le pouvoir est confisqué par une classe professionnelle, de bonnes politiques professionnelles très net en France, hein, où il y a un taux de renouvellement qui était relativement faible jusqu'à 2017, des carrières extrêmement longues. Nous apprenons que Gérard Collomb va retourner à Lyon, dont il pourra être maire donc pendant 21 ans quand même. Godin bat ce record à Marseille. Donc on peut avoir des édiles qui sont là pendant des décennies dans la même ville. Ce discours de « c'est une dictature puisque le pouvoir est confisqué, il est retiré au peuple, on ne nous consulte pas, le scrutin majoritaire uninominal fait que ma voix ne compte pas, on ne nous entend pas », est précisément le discours de ceux qui affaiblissent la démocratie et souhaitent un autre type de régime. Alors je voudrais ajouter un point de comparaison, là vraiment avec ce qu'a dit Antoine Chollet, c'est que la France a un rapport à la démocratie directe très très différent et à la procédure référendaire, au référendum, marqué par une succession d'épisodes historiques très particuliers qui peuvent sembler très loin, mais qui, chez nous, ont discrédité la démocratie directe comme précisément une des formes de l'autoritarisme. C'est le souvenir de Louis-Napoléon Bonaparte et l'usage du référendum dans le Second Empire. C'est le souvenir du passage d'un certain usage de la procédure référendaire par le général de Gaulle dans la naissance de la Ve République et le passage à l'élection du président de la République au suffrage universel direct comme coup d'État permanent, pour citer Mitterrand, comme tête-à-tête entre un chef charismatique et le peuple pour contourner, pour dépasser l'opposition qui pourrait être celle des parlements. Et puis, il y a un très mauvais souvenir récent, c'est celle sur le référendum européen, où on a consulté les citoyens français sur l'adoption ou non du traité de Maastricht. La réponse a été claire des électeurs, et le pouvoir exécutif s'est assis sur la réponse, totalement. Donc, en France, d'une certaine façon, la procédure référendaire et l'idée de démocratie directe ou de participation a été discréditée ou très, très affaiblie, même si on sent aujourd'hui les limites, et les mêmes que celles que vient d'évoquer Antoine Chollet, les limites du système représentatif et du rôle des partis, avec un taux d'abstention qui finit par ressembler à celui de la Suisse. Un taux d'abstention, on était autour des 50% dans le deuxième tour des législatives de 2017. Hein. Donc on dit, est-ce que le chiffre que vous donnez là, une dictature de 15%, je crois que les listes La République En Marche ont obtenu un peu 36% aux élections législatives, avec un taux d'abstention de 5%, ça fait 16% du corps électoral, voilà, à peu près.
Nenad Stojanovic, vous êtes aussi positif que vos deux autres conférenciers?
Écoutez, chez moi, ça dépend beaucoup qui est le public que j'ai devant moi, dans le sens que si nous sommes dans un contexte suisse, à l'intérieur de la Suisse, moi, je suis très critique. Vous savez, je vais dire, bon, on n'a pas la transparence dans le financement des campagnes. On ne sait pas combien d'argent les riches payent dans les référendums pour le raccord des signatures, etc. etc. On n'a pas un contrôle de constitutionnalité, etc. etc. Donc, je pense, En Suisse, on doit être critique vis-à-vis des institutions pour les améliorer. Mais dès que je suis en dehors de la Suisse, je suis un grand défenseur de la démocratie directe. Et vu que le collègue Christian il a introduit aussi un aspect comparé avec la France, etc., mais c'est troublant pour moi de voir qu'en Europe, celles et ceux ou les partis, les mouvements qui défendent la démocratie directe ou qui aimeraient introduire la démocratie directe dans leur pays respectif, c'est pratiquement que des mouvements populistes, souvent de droite, Front National en France, le FPE en Autriche, l'Alternative für Deutschland en Allemagne, parfois aussi un peu de gauche, comme Movimento 5 Stelle en Italie, mais c'est des mouvements populistes qui demandent la démocratie directe. Donc c'est un petit peu troublant. Et c'est un petit peu l'ambition de ce projet que je viens de commencer à Genève et qui est un projet de 4 ans. Pour ainsi dire, c'est presque de défendre la démocratie directe de celles et ceux qui pensent que ça serait quelque chose de très bien pour les populistes. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce projet une théorie non populiste de la démocratie directe, même si ensuite, avec Antoine, un petit peu en désaccord. Il y a aussi des interprétations plus positives du populisme, mais le populisme qui est pour moi gênant, c'est le populisme qui pourrait, à moyen terme, terminer par menacer les institutions démocratiques. Donc, ce qui se passe en Hongrie, en Turquie, en Russie, etc. Voilà, c'est ça le préoccupant pour moi, le populisme de ce genre-là s'ils sont au pouvoir, pourrait finir par vraiment menacer les institutions démocratiques. Donc, c'est avec cet esprit-là que je pense qu'il y a une façon de concevoir la démocratie directe qui est résistante à cette charge du populisme. Et je pense que le modèle qu'on a en Suisse, avec tous les défauts, et ça on doit l'améliorer, mais c'est une démocratie directe qui part d'en bas. Parfois, il y a des partis qui essayent d'en profiter, mais quand même, il y a aussi des mouvements vraiment citoyens qui lancent des initiatives, qui lancent des référendums, qui doivent quand même récolter les signatures. Donc, c'est pas le président, comme en France, même si ça a été un petit peu modifié, mais en France, c'était le président décide de tenir le référendum. Ce n'est pas la démocratie directe qu'on connaît en Suisse. En Grande-Bretagne, c'était le Premier ministre qui a décidé de faire le référendum sur Brexit. Voilà, ce n'est pas le type de démocratie directe auquel moi je suis attaché. Donc je suis attaché vraiment à une participation des citoyens dans la vie politique et d'une démocratie directe qui vient d'en bas.
Vous allez d'ailleurs nous rappeler tout à l'heure votre projet Genevois, mais pas tout de suite. Pascal Mahon, votre point de vue à vous.
Alors, je crois que je n'ai pas de désaccord avec ce qui a été dit. Moi aussi, j'aime bien être assez critique sur la démocratie directe quand on est en Suisse. Donc là, je partage tout à fait ce que Nenad vient de dire. J'aime bien défendre la démocratie directe quand je suis à l'étranger, surtout en France, parce qu'ils n'aiment pas trop, effectivement. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais j'aime bien la défendre. Mais pour moi, la question dictature, je pense que la question de l'abstentionnisme, ce n'est pas vraiment un grand problème en soi. Comme ça a été dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un système dans lequel on peut voter, déjà. Je rappelle quand même que à peu près la moitié ou plus de la moitié des votations populaires qui ont lieu chaque année sur la planète ont lieu en Suisse. Donc, si vous comparez la superficie de la Suisse avec le reste de la planète, c'est quand même assez impressionnant. On choisit en plus sur quoi on va voter. On peut parfois choisir sur quoi on va voter. Donc on a un système qui est finalement assez intéressant, qui permet une participation avec tous les défauts qu'il a. Et on reviendra sur ces défauts. Donc moi, je préférais qu'on passe à la question suivante et puis qu'on parle un petit peu des défauts ou des remèdes pour essayer de colmater un petit peu les brèches. Mais je crois que ce qui est intéressant dans la question de l'abstentionnisme, c'est pas tellement le fait qu'il y ait... font 60% qui s'abstiennent. On vote beaucoup, donc on a le droit de ne pas y aller, on a le droit d'y aller, on est libre. Moi, ça ne me dérange pas, la liberté, j'aime bien. Par contre, on pourrait peut-être se poser la question, pourquoi on n'y va pas ? Alors, ça peut être parce que le sujet ne nous intéresse pas, ça peut être parce qu'on ne se sent pas compétent, je pense que c'est très important ce que disait Antoine Chollet tout à l'heure, mais ça peut aussi être parce qu'il y a cette impression que la politique, au fond, est prise en otage par certains mouvements, par les politiciens,
etc. Oui, comment expliquer justement ce désintérêt, parfois ?
Alors là, on pourrait peut-être creuser et puis voir s'il n'y a pas des remèdes à apporter dans le système qui permettent de rapprocher finalement le citoyen du monde politique. Moi, j'ai aussi l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais qu'il y a un certain éloignement du monde politique par rapport à ses électrices et électeurs qui fait que ça peut aussi un peu décourager la participation. Alors, je ne sais pas si c'est... Il y a certainement, c'est certainement multifactoriel, mais... Et là-dessus, je pense que les questions qu'on va aborder tout à l'heure, comme le tirage au sort, peuvent apporter des solutions peut-être qui sont intéressantes et qui, surtout, je crois que ce qu'il faudrait, c'est lever le débat, enfin, lancer le débat sur ces questions-là.
Une manière d'exprimer son mécontentement, c'est de parfois voter blanc. Est-ce que vous êtes d'accord, Antoine Chollet ? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi, ce vote blanc ?
Oui, c'est une manière peut-être d'exprimer son mécontentement, mais le principe même du vote blanc, c'est précisément de ne pas avoir de sens en tant que tel. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé de voter blanc à certains référendums, et pour des raisons très différentes d'un autre vote blanc. Donc je sais qu'il y a des militants qui souhaitent en faire quelque chose, mais il faut bien s'entendre. C'est à partir du moment où on fait quelque chose de précis avec le vote blanc, on lui donne un sens, on lui donne un contenu, et donc ce n'est plus vraiment un vote blanc. C'est un vote qui signifie autre chose, qui peut signifier... la remise au concours de l'élection, par exemple, si le taux de vote blanc excède, je ne sais pas, un tiers des voix ou la moitié des voix, ou qui pourrait permettre, par exemple, de changer, de modifier la majorité dans les référendums. C'est une proposition qui a été faite. Moi, elle ne me semble pas, alors surtout pas de nature à augmenter massivement la participation, et pas nécessairement non plus de nature à revivifier la démocratie, même s'il est important de pouvoir continuer à voter blanc. Et certaines fois, je me rappelle du débat sur la constitution genevoise, qui était un peu qui posait quelques problèmes à une partie de la gauche, et donc cette partie-là de la gauche, qui était composée à la fois de membres du Parti socialiste et d'autres mouvements de gauche, avait appelé à voter blanc en demandant que le nombre de votes blancs soit supérieur à la différence entre les oui et les non, ce qui a été le cas finalement. Mais ce qui n'a pas d'effet, bien sûr, juridique ou légal, mais qui a un effet symbolique. C'est-à-dire que la décision sur la nouvelle constitution a une légitimité un peu entamée, et d'une certaine manière, la population genevoise aurait très bien pu continuer de vivre avec l'ancienne constitution, même si elle a choisi d'en avoir une nouvelle.
Olivier Christin, pour vous, le vote blanc vu de France ?
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pascal Mahon sur l'abstention et dire un mot sur le vote blanc. Il y a en France des instituts de sondage, dont un institut qui s'appelle Ipsos, qui fait les mêmes enquêtes à date récurrente et pose les trois mêmes questions. Donc c'est le triangle vertueux, soi-disant, voilà, ou vicieux. Les trois questions, c'est: est-ce que la politique vous intéresse ? Est-ce que vous vous sentez bien représenté par la classe politique ? Est-ce que les hommes politiques peuvent quelque chose pour les questions qui vous préoccupent ? Et le taux de réponse négative a flambé dans les 10 dernières années. Et c'est l'un des ressorts de l'abstention, c'est que les gens ne s'intéressent plus à la politique, pensent que la classe politique ne les représente pas. Et de toute façon, la politique à l'échelle nationale ne peut pas grand-chose contre des décisions qui relèvent de l'internationalisation des marchés, du réchauffement climatique, et que la classe politique s'agite pour des décisions qui sont prises soit ailleurs, des contrôles de constitutionnalité, ou soit à Bruxelles, ou par les marchés. Donc là, il y a un vrai ressort de l'abstention dans la perte de confiance dans ce que peut la politique et ce qu'est la politique. Alors sur le vote blanc, en France, on a vu une flambée du vote blanc dans les dernières élections présidentielles, qui a passé un cap qui n'avait jamais atteint 12% dans le deuxième tour des présidentielles. Mais il faut ramener ça, je ne crois pas qu'on puisse lui donner un sens, si ce n'est un sens de défiance à l'égard du rôle des partis politiques et de la sélection des hommes politiques qui se proposent au suffrage des citoyens que font les partis politiques en France. C'est-à-dire la question de l'investiture par les partis politiques. Et le 12% de vote blanc en France aux élections de 2017, c'est en grande partie des votes venus de la gauche ou des électeurs déçus de François Fillon. Il faut bien imaginer que les élections présidentielles en France ont fait venir au deuxième tour, nous on a un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, du lourd, voilà. Eh bien ça a fait venir les électeurs, plus de la moitié des électeurs, à un deuxième tour voter pour des candidats dont ils ne voulaient pas, ni Macron, ni Le Pen. Un électeur de gauche classique, un électeur de parti gouvernemental classique avait le choix entre la peste et le choléra. Voilà. Donc beaucoup de votes blancs. Alors, qui a fait gagner, bien sûr Macron a gagné très très largement, mais il faut imaginer ce que peut être la contrainte qu'exerce ce type de vote et pourquoi ça explique le vote blanc dans certains cas. Mais je ne pense pas qu'il faille le doter d'un sens particulier. Et je ne suis pas certain, ça poserait des problèmes considérables, par exemple, de lui donner un sens et de considérer qu'il représente quelque chose, parce que là, on modifie les règles de fixation de la majorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que devient la majorité par rapport au suffrage exprimé ? Ça compliquerait énormément la construction de majorité stable, très très difficile, pour un gain démocratique qui n'est pas net. Enfin, que j'aimerais qu'on m'explique, peut-être mes voisins vont m'expliquer.
Nenad Stojanovic.
Oui, il est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion au niveau théorique sur le significat de vote blanc. Je pense qu'en Suisse, ce qui serait sûrement souhaitable, c'est au moins de rendre visible. Dans le sens, aujourd'hui, si vous allez à la votation fédérale, allez sur le site admin.ch de l'administration fédérale, vous n'allez pas voir le nombre de votes. Donc, vous devez vraiment le calculer vous-même. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'il faudrait au moins le rendre visible. Dans les élections, il y a eu des propositions un petit peu même poussées pour rendre visible ça. Donc, si vous avez les élections, vous votez pour les partis, etc. Si vous avez un certain nombre de voix blancs, on pourrait les rendre visibles vraiment en disant, voilà, s'il y a 5% de voix blancs dans un système au scrutin proportionnel, ça correspond à 5% de sièges, voilà, ces 5% de sièges seront vraiment vides au Parlement. Donc il y aura 5 sièges qui ne sont pas occupés.
Ça crée quelque chose d'un peu absurde.
C'est pas forcément absurde dans le sens, si vous voulez, rendre visibles celles et ceux qui ne s'abstiennent pas. Donc c'est des gens qui ils vont voter, mais pour X raisons, ils votent blanc. Ça peut avoir un sens d'avoir 5 sièges vides. Ensuite, c'est la question comment est-ce qu'on les considère, voilà, c'est pour la majorité au Parlement, mais quand même. Je dis juste, c'est l'une des idées qui a circulé pour le rendre visible. Ensuite, et je termine par ça, on pourrait se demander pour des changements de plus importants de la Constitution. Le seul canton en Suisse qui applique une règle qui prend en considération les votes blancs, c'est le Valais. Pour la constitution cantonale, il faut la majorité des votants, pas la majorité. Donc, quand je dis la majorité des votants, ça veut dire que de facto, les votes blancs sont considérés comme les non. Ça peut avoir une logique. Ça peut avoir une logique. Donc, dans le Valais, on dit que c'est la majorité des votants. Ça, on ne l'a pas, par exemple, dans les autres cantons, ni au niveau fédéral. Donc, juste pour donner un exemple concret d'une initiative qui a fait quand même pas mal parler et travailler le Parlement ces dernières années, l'initiative contre l'immigration de masse. 2014, 9 février, vous savez, elle a été acceptée par 50,3%. OK. Mais ce n'était pas 50,3% des votants. Si vous faites le calcul sur les votants, vous arrivez à 49,7%.
Elle aurait changé la face du vote.
Ça aurait voulu dire que l'initiative contre l'immigration de masse n'aurait pas été acceptée si on avait le système comme dans le canton de Valais, si on l'avait au niveau fédéral. Je le mets juste comme voilà comme quelque chose sur lequel on pourrait discuter.
Antoine Chollet.
Les exemples que tu as pris, c'est-à-dire et le Valais et cette affaire du vote de 2014 montrent bien que la prise en compte du vote blanc a un effet conservateur. Alors si politiquement on est sans doute d'accord pour dire que en 2014 ça aurait été mieux que ça ne passe pas, disons que ça a un effet de renforcer les noms, et ça a aussi un autre problème pour un référendum, c'est que tu peux dire non de deux manières différentes. En disant non et en votant blanc. Et un peu de la même manière qu'en Italie, dans les référendums, il y a un quorum de 50% des voix, et on peut donc voter non en se déplaçant ou en ne se déplaçant pas, ce que d'ailleurs Berlusconi avait demandé une des fois en disant « il fera beau ce week-end, aller à la plage, ça sert à rien de venir voter ». Donc il y a toute une série d'effets pervers avec cette manière de voter non de deux manières différentes. C'est la raison pour laquelle je disais le vote blanc, c'est un vote blanc justement, c'est un vote qui ne signifie rien, qui n'est pas exprimé. Et pour la majorité, il faut se fonder sur les votes exprimés, non pas les votes qui sont rentrés, enfin l'ensemble des bulletins qui sont dans l'urne.
Pascal Mahon.
Si on ne veut pas que ce soit conservateur, on pourrait les compter comme des oui. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Hein. Au XIXe siècle, la constitution de la deuxième constitution de la République helvétique, celle de 1802, qui n'est pas restée en vigueur très longtemps, mais elle a été acceptée. J'ai les chiffres là, donc je vous les donne. Il y avait 72 453 oui, 94 719 abstentions. Alors, on ne pouvait pas voter blanc à l'époque, on s'abstenait. Mais... Et puis, il y avait 92 000 non. Donc, il y avait plus d'abstentions que de non. Et on a considéré qu'elle était adoptée par 167 172 oui, puisqu'on a compté les abstentions comme des oui. Donc, c'est ça le problème du vote blanc. Moi, je comprends tout à fait que quand on vote blanc, on aimerait bien que ce soit reconnu, que ça sorte quelque part. Donc, j'ai aucun problème avec l'idée de dire on compte les blancs et on les annonce dans les résultats officiels. On dit il y a X% de oui, X%, Y% de blancs, et etc. Mais après, la revendication de ceux qui aimeraient qu'on compte le vote blanc, c'est-à-dire que le vote blanc compte dans les résultats, elle est très, très difficile à exprimer ou à concrétiser, surtout dans des référendums. Je parlerai des élections après, mais dans un référendum, vous votez pour ou contre l'avortement. Vous votez pour ou contre la chasse, pour reprendre l'exemple de l'Italie, où on a incité les gens à aller chasser plutôt que d'aller voter contre l'abolition de la chasse. Hein, donc les chasseurs, ils sont allés chasser, et ils ont compté comme des noms, parce que les abstentions comptent comme des noms. Donc en fait, c'est très difficile, parce que le référendum, il est binaire, c'est oui ou non. Donc si vous voulez compter les blancs, il faut les compter d'un côté ou de l'autre. Alors si on les compte comme des noms, c'est le cas du Valais, bah, c'est conservateur, parce qu'il faut plus que la majorité de ceux qui expriment un avis pour changer la Constitution. Ou alors on est très progressiste, puis on les compte comme des oui. Mais la personne qui vote blanc ou qui s'abstient, bah, elle n'a pas envie, me semble-t-il, de dire oui. Elle n'a pas non plus envie de dire non. Donc dans un référendum, si on compte les blancs, à mon avis, on a un effet conservateur, puisque le référendum, on vote pour changer quelque chose. Ou alors, on pourrait imaginer, ça existe, qu'on dise, ben, la votation est annulée, parce qu'on n'a pas atteint, c'est un peu le cas italien, on n'a pas atteint le quorum, parce que les blancs, on les compte dans la majorité. Et puis, en fait, à ce moment-là, c'est quand même le statu quo qui l'emporte.
Et donc, ça repousse, en fait.
Donc,
ça
c'est comme si c'était des noms. Dans les élections, c'est un peu différent. Dans les élections, il y a un canton qui, aujourd'hui, prend en compte le vote blanc. C'est le canton de Vaud depuis la révision de la Constitution, où c'est une élection à la majoritaire à deux tours. Enfin, pour les élections à la majoritaire à deux tours, excusez-moi, mais par exemple l'élection du gouvernement, où on va compter les votes blancs dans le calcul de la majorité absolue, ce qui monte la barrière au premier tour. Ce qui fait que c'est plus difficile d'obtenir la majorité absolue, donc de passer au premier tour. Mais au deuxième tour, on peut plus les compter, puisqu'au deuxième tour, c'est une majorité relative. Et de nouveau, je vois pas comment on les compterait. Donc c'est assez compliqué. Je comprends cette revendication de dire qu'il faut mettre en valeur le vote blanc, mais c'est assez compliqué de la concrétiser. Alors, il y a un pays où ça existe, enfin je crois, si j'ai bien suivi, c'est la Colombie pour les élections présidentielles. Ou s'il y a plus de votes blancs que d'autres votes, donc si le blanc fait la majorité absolue, eh bien on annule simplement l'élection et on recommence quelques mois après. Alors après, la grande question qui se pose, c'est est-ce que les candidats dont l'élection est annulée peuvent se représenter? Imaginez en France, si on applique ça à l'élection au deuxième tour Macron-Le Pen, ça veut dire que voilà, les Français, le vote blanc a supposé qu'ils fassent une majorité absolue. Ni Le Pen ni Macron peuvent se représenter. Alors, certains seront très contents, mais il faut aller chercher d'autres candidats. Hein, donc, c'est pas si évident que ça à mettre en pratique.
Une question presque philosophique, on l'aura compris, tout dépend des points de vue. Alors, on va un peu avancer dans ce débat avant qu'on ouvre les questions au public. J'aimerais juste encore vous entendre sur comment faire pour que la composition de notre Parlement soit plus représentative de la population, notamment avec des initiatives de tirage au sort. Nenad Stojanovic, ça me donne envie de commencer par vous. Saisissez-vous du micro. Allez, on
oui.
se réveille.
Oui, oui, mais non, je suis réveillé. Je ferme les yeux comme Schneiderman, mais juste pour réfléchir. Et je ne vais pas démissionner. Oui, le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est le mécanisme démocratique de la démocratie ancienne, à Athènes, mais encore au Moyen Âge, dans la République italienne, dans les cantons suisses. Antoine peut. On sait même plus que moi. Sur ça, ils ont fait une recherche à Lausanne. Donc, le tirage au sort, c'est le mécanisme démocratique. Pourquoi ? Parce qu'il fait respecter davantage que les élections le principe de l'égalité, égalité politique, qui est au cœur de la démocratie. Et de ce point de vue, les élections peuvent être très inégalitaires. Tandis que le tirage au sort, si on fait ici, je ne sais pas, une salle de 50 personnes et on doit prendre 10 personnes à travers le tirage au sort, chacun parmi vous, chacune, chacun, a exactement la même probabilité d'être sélectionné. Donc, voilà. On est dans l'histoire, on est passé aux élections parce qu'il y a un autre principe qui s'est imposé, le principe de consentement, c'est-à-dire que celles et ceux qui sont gérés par quelqu'un veulent consentir. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est passé à l'élection. Mais le tirage au sort, ces dernières années, il est en train d'avoir une nouvelle vie, pour ainsi dire, parce qu'il y a de plus en plus...
Avec l'initiative Génération Nomination, notamment.
Oui, mais en général, au niveau mondial, on en parle de plus en plus. En Suisse, il y a un groupe de personnes qui s'appelle Génération Nomination qui ont essayé de ils n'ont pas encore lancé l'initiative populaire, mais il y a l'idée de dire qu'une chambre du Parlement fédéral doit être sélectionnée par le tirage au sort et non pas par l'élection. Alors, ça, c'est quand même un pas, ça serait un pas assez radical de dire que nos lois doivent être décidées par une chambre où on n'a pas choisi, c'est le tirage au sort, parce qu'il se pose la question, à mon avis, de manière injuste, de la compétence, etc. etc. Et donc, peut-être, si on veut vraiment, si on est attiré par le tirage au sort, on devrait commencer probablement par des réformes un peu plus souples. Et l'une des réformes qui, à mon avis, serait intéressante et que je vais, dans mon projet à Genève, je vais essayer de la tester dans deux ou trois communes suisses, c'est quelque chose qui existe en Oregon, aux États-Unis, depuis 8 ans, et qui est intéressant parce que ça combine le tirage au sort avec la démocratie directe et la démocratie délibérative. Alors, très brièvement, en Oregon, ils ont pas mal de référendums comme chez nous. Et là, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle Citizens Initiative Review. Donc, c'est un panel de citoyens, une vingtaine, 25 environ citoyens, donc citoyens ordinaires, si vous me permettez l'expression, qui ont été sélectionnés parmi tous les citoyens d'Oregon à travers le mécanisme de tirage au sort. Ensuite, c'est ajusté un petit peu juste pour faire en sorte que ces 25 personnes sont vraiment représentatives de la population. Et ensuite, on les laisse discuter pendant 5 jours, donc presque une semaine, de l'objet, d'un objet qui est soumis au référendum dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, ils discutent pendant une semaine, ils écoutent les avis des contraires, des favorables, des experts sur la question, sur les enjeux de la question qui est posée au référendum. Et ensuite, de ces 5 jours, le dernier jour, ils doivent rédiger un statement, donc une page, où, première moitié de la page, il résume les enjeux de cette votation, donc quels sont les enjeux principaux, et ensuite, il donne une recommandation de vote. Ils peuvent y avoir l'opinion de majorité ou de minorité, et les deux sont ensuite publiés, et ce statement d'une page, il est ensuite publié dans la brochure officielle de votation qu'en Suisse on connaît.
Donc, que tout le monde reçoit la même.
Voilà, tout le monde reçoit. Donc, en d'autres termes, en tant que citoyen, en tant que votant, vous avez cette brochure où vous n'avez pas seulement l'avis du gouvernement, l'avis du Parlement, l'avis des partis, comme on l'a déjà aujourd'hui, mais vous avez également l'avis de ces citoyens ordinaires. Et je vois vraiment dans ce que je l'appelle modèle d'Oregon, je vois pas mal de choses intéressantes pour innover, renouveler, si vous voulez, aussi en Suisse, la démocratie directe, parce que le tirage au sort, encore une fois, ça garantit mieux le principe d'égalité politique. Deuxièmement, ça serait une espèce d'école de démocratie pour ces citoyens qui sont sélectionnés, parce que pendant une semaine, ils peuvent comprendre comment fonctionnent les institutions, la complexité des enjeux politiques. Ils apprennent aussi à discuter, ils peuvent échanger les opinions. Et ensuite, leur recommandation, ça finit pas nulle part, mais ça va directement aux votants qu'eux, ils doivent s'exprimer sur un référendum.
Et vous allez faire un projet pilote donc à Genève et aussi en Suisse allemande et au Tessin, c'est ça?
Bon, oui, l'idée, bon, on n'a pas encore sélectionné, donc je suis vraiment tout au début de projet, ça démarre en fait le 1er octobre.
C'est une grande nouveauté.
Je pense qu'en Suisse, ça serait...
Ça n'existe pas encore.
Ça n'existe pas encore. Ça existe encore une fois aux États-Unis depuis seulement quelques années. Mais disons, les études qui ont été faites aux États-Unis à la suite de ces panels de citoyens, ils montrent qu'environ 45% des votants, ils lisent vraiment cette brochure et ces recommandations. Ils disent, ils en tiennent compte. On ne sait pas est-ce qu'ils suivent ces recommandations ou pas. Ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est que de permettre aux citoyens votants d'avoir un avis qui leur permet peut-être la prise de décision, est-ce qu'il faut voter oui ou non dans un référendum, et qui est, disons, qui se détache un petit peu de cette idée que, voilà, les citoyens doivent écouter ce que les élites disent, le Parlement, le gouvernement, les partis. Non, ici, ils ont vraiment aussi l'avis des citoyens ordinaires. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt de ce modèle d'Oregon.
Antoine Chollet.
Oui, alors Nénad a eu la gentillesse de faire référence aux travaux d'une équipe de recherche de l'Université de Lausanne. Bon, avec le tirage au sort, il faut faire attention tout de même. Parce que quand on parle de tirage au sort, c'est comme si l'on disait l'élection en faisant une unité et en ramenant sous le même terme l'élection du pape, l'élection du président des États-Unis, l'élection du caissier de l'association à laquelle on fait partie, ou l'élection de je ne sais pas qui encore, enfin du conseil communal de Neuchâtel ou d'autres. Donc toutes ces élections sont évidemment très différentes entre elles, de même que les usages du tirage au sort. Et on peut le voir dans l'histoire, que ce soit dans la Grèce ancienne ou dans les républiques italiennes, puis ensuite suisses, du Moyen-Âge et de la période moderne, les usages du tirage au sort sont extraordinairement variés et, en général, notamment en Suisse, ils ne sont pas séparés de l'élection. On a toujours les deux choses en même temps. C'est-à-dire, élection et tirage au sort ne s'opposent pas du tout. On a le cas à Bâle, on a le cas à Berne, on a le cas à Glaris également. C'est des combinaisons, soit avec une élection qui est suivie d'un tirage au sort, ou le tirage au sort d'un corps électoral qui ensuite élit des personnes. C'est le cas à Venise aussi, dans un exemple très célèbre pour la désignation du doge. Donc on a quelque chose de très différent et qui, en général, et ça c'est quelque chose que les deux doctorants qui travaillent dessus, qui travaillent très bien, ont montré, c'est une proposition des élites, c'est une proposition oligarchique, le tirage au sort. Et en particulier pour un point très intéressant, c'est pour limiter le coût de la corruption. C'est-à-dire qu'il fallait acheter...
Limiter le coût de la corruption.
Il fallait acheter les postes dans l'Ancien Régime en Suisse, mais dans les autres pays également. Si on voulait devenir bailli de Werdenberg, par exemple, vous deviez convoquer un immense banquet, inviter la population et lui donner à boire et à manger. Et ça commençait à devenir tellement cher que les grandes familles glaronnaises se sont dit, bon, on va passer au tirage au sort, comme ça, au moins, on aura un peu moins à payer. Donc, il faut pas oublier ces exemples. Et alors, l'énigme qui est donnée par tous les auteurs qui ont écrit là-dessus et qui disent, on ne comprend pas pourquoi ça a disparu, alors que Rousseau et Montesquieu disaient que c'était la marque de la démocratie, se transforme. C'est-à-dire que l'énigme maintenant, à laquelle je n'ai absolument pas de réponse, c'est comment se fait-il qu'un personnage et qu'un penseur aussi fin et aussi informé que Montesquieu ne s'était pas rendu compte que le tirage au sort n'était pas démocratique et était complètement pris dans les affaires des oligarchies, des cités-États, des petits cantons, etc. Et donc j'ajoute une autre chose par rapport au tirage au sort, c'est que on est aveuglé par l'exemple athénien, et qui est un exemple très, très important dans l'histoire des institutions politiques, où en effet le tirage au sort était utilisé de manière extrêmement, extrêmement importante et intensive. Mais il faut bien savoir pourquoi les gens étaient tirés au sort à Athènes. C'était les jurys, c'était un certain nombre de postes exécutifs au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'exécuter des décisions prises par d'autres assemblées, mais l'assemblée des citoyens n'était pas tirée au sort. Tous les citoyens pouvaient participer et participaient dans des nombres assez importants à l'assemblée qui avait lieu une trentaine de fois par année dans les meilleures années. Et donc cet exemple athénien, il nous aveugle un peu. C'est le cas dans le, bon là c'est un peu une discussion de spécialistes, mais dans le livre de Bernard Manin, Les principes du gouvernement représentatif, qui est un très bon livre. Il y a tout un chapitre sur Athènes qui est très enchanté. D'ailleurs Bernard Manin nous l'avait dit, j'ai été très impressionné en découvrant ces procédures. Mais ce sont des procédures qui n'ont strictement rien à voir avec ce que l'on pourrait mettre en place dans nos institutions politiques aujourd'hui. Elle pourrait être mise en place dans une petite association, ça peut-être, ou éventuellement dans un parti pas trop important, mais au niveau des institutions centrales, ça paraît beaucoup plus difficile. Donc il faut vraiment faire attention avec le tirage au sort. En fait, le diable se cache dans les détails d'une certaine manière. Entre qui est-ce qu'on tire au sort? Comment? pour combien de temps, pour quel poste, etc. Et là, évidemment, tout change, absolument tout change. Vous pouvez tirer au sort, comme c'était le cas à Bâle, entre 3 candidats élus par le Grand Conseil, ou vous pouvez tirer au sort sur l'ensemble de la population, comme c'était le cas à Athènes. Et évidemment, le sens de l'institution, ou le sens de la procédure, plutôt, change complètement. Donc, je ne vais pas nécessairement faire des débats contradictoires avec Nénad pendant la campagne pour son initiative, mais c'est vrai qu'il faut... Il y a une forme de, disons... pas de confusion, mais on met beaucoup de choses sous le chapeau au tirage au sort, alors qu'en réalité, c'est une institution aussi complexe que l'élection, ou que la désignation, ou que la cooptation, et on peut y mettre des pratiques extraordinairement différentes. Et l'histoire suisse le montre, en plus, c'est ça qui est intéressant, l'histoire suisse le montre très clairement, jusqu'au début du 19e siècle, où le tirage au sort est utilisé sous l'acte de médiation, donc en 1803 et 1813, après aussi. Et généralement, lorsqu'il est utilisé après, c'est plutôt un résidu de l'ancien régime. C'est notamment le cas lors de la nouvelle constitution genevoise en 1814. Ce sont plutôt les anciennes familles patriciennes qui veulent revenir à l'ancien système et qui réinjectent du tirage au sort dans la nouvelle constitution.
Alors, à moins que Pascal Mahon ou Olivier Christin aient quelque chose à rajouter sur le tirage au sort là tout de suite, je propose d'ouvrir les questions au public. Hein ?
Moi, je veux bien être très bref. Il me semble que le débat est très intéressant. Ce que vous avez dit tous les deux est très nuancé, plus nuancé que ce qu'on trouve dans certains livres. Il y a le livre très bon de Bernard Menin, il y a le livre très bon de Yves Saint-Omer, il y en a un moins bon qui a connu un succès considérable. Qui a fini par, voilà, on va pas dire le nom parce que je pense beaucoup de mal de ce livre, qui finit par caricaturer le tirage au sort comme le contraire démocratique d'une élection qui serait forcément une confiscation du pouvoir arraché au peuple. Et d'un auteur qui finit par dire historiquement les élections ont été créées pour dominer le peuple, pour que les élites dominent le peuple. Non, les élections sont venues dans l'Occident médiéval en partie pour la question du consentement et pour le consentement à l'impôt. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans consentement de ceux sur qui il s'exerce. Et c'est pour ça que les élections ont été réintroduites. Donc, voilà, on va dire le nom. Allez, c'est David Van Reybroek, un livre qui s'appelle Contre les élections, qui est. Enfin, je suis en désaccord avec tout ce qu'il y a dans le livre. Bon. Le tirage au sort pose. Vous avez raison, je vois trois problèmes. Il y a le problème du consentement que vous avez évoqué. Il y a le problème de la réversibilité des statuts minorité-majorité. C'est-à-dire, dans le cas de l'élection, je peux perdre l'élection, mon camp peut perdre, je suis dans la minorité. Mais je peux penser que ça ne sera pas toujours le cas, et qu'un jour mes idées reviendront ou mon parti reviendra au pouvoir. Dans le cas du tirage au sort, cet effet d'expectative et d'adhésion à un pouvoir qu'on ne partage pas, parce qu'on pense qu'un jour on sera soi-même au pouvoir, n'existe plus. Et puis il y a la question que vous évoquiez, que je trouve très intéressante, qui je crois s'est produite dans le cas de l'Islande. Il y a une assemblée tirée au sort, délibérative ou constituante, qui propose un projet. Le projet est soumis à référendum, il est refusé au référendum. Et David Van Reybroek a cette phrase merveilleuse, il y a un peuple intelligent, celui qui délibère, il y a un peuple d'imbéciles, celui qui vote. Il y a un petit problème. Voilà. Que faire comme ça ? Et donc moi j'ai hâte de voir votre initiative mise en route pour voir comment vous réglez ces questions-là, si jamais il y avait une initiative très bonne, une délibération citoyenne formidable, soumise à référendum et refusée en référendum.
Nenad Stojanovic.
Peut-être il y a juste une... quand on parle de mon initiative, parce qu'il y a trois choses différentes, et à mon avis, il y a l'initiative de ce groupe Génération Nomination, une initiative pas encore lancée, mais vous pouvez aller sur le site genomi.ch, vous pouvez même vous annoncer comme éventuellement que vous aimeriez la signer. Hein. Donc moi, je ne suis pas dans ce comité d'initiative. Donc c'est l'initiative qui propose une chambre du Parlement fédéral sélectionnée par le tirage au sort. OK, voilà. Ensuite, il y a cette expérience de terrain que je vais faire sous le modèle d'Oregon. Mais là, justement, c'est pas que les conclusions de ce groupe des citoyens sont soumises au vote. Non, d'accord. Il y a de toute façon une votation, il y a un référendum qui est indépendant de ce groupe des citoyens. Non, c'est décidé par d'autres moyens. Donc il y a un référendum. Mais on utilise ce groupe de citoyens pour avoir un avis sur le référendum, mais un avis, une recommandation qui ne vient pas du Parlement, du gouvernement, mais de ces citoyens ordinaires, encore une fois, sélectionnés par le tirage au sort. Et la troisième chose, il y a l'initiative, là où je suis dans le comité d'initiative, et là, si jamais on peut en parler, qui est, on a commencé à récolter les signatures dans le mois de mai. On
va l'initiative sur la justice pour une désignation des juges fédéraux par tirage au sort.
Voilà, exactement.
Donc vous faites.
Alors là, mais très brièvement, juste pour ne pas confondre. Là, donc là, l'idée, c'est que les juges fédéraux qui aujourd'hui ne peuvent pas être élus s'ils ne sont pas membres d'un parti. Et s'ils ne payent pas cotisation au parti d'une manière pas complètement...
Ce qui est quand même assez...
Ouais. La Suisse est très critiquée au niveau international par cette...
C'est délicat, disons,
voilà,
d'avoir des juges fédéraux dans des partis qui versent en plus de l'argent au parti.
Alors, l'initiative sur la justice, bien sûr, c'est pas de dire on fait le tirage au sort parmi toute la population pour sélectionner les juges, bien sûr, non. Non, il y aura des candidats qui doivent passer par une commission d'experts pour voir s'ils ont les qualifications nécessaires pour le job. Et ensuite, parmi celles et ceux qui ont été retenus comme capables pour exercer la fonction, alors c'est là qu'on utilise le tirage au sort pour nommer les juges. C'est bref, mais encore une fois, c'est encore une autre chose sur laquelle on n'a pas encore parlé.
Ok, très bien. Alors je vais ouvrir les questions au public à moins que Pascal Mahon décide de rajouter quelque chose. On va ouvrir. Très bien. Alors où se trouve le micro du public? C'est vous, Igor, qui l'avez. Qui aimerait commencer? Devant, ici, monsieur. On va prendre le monsieur. D'accord. Ouh, je ne vous ai pas vu derrière le poteau. Excusez-moi.
Bonjour. Je m'appelle Grégoire. Je remercie tous ces messieurs, puis vous, madame, pour vos interventions. Moi, j'avoue que cette idée de faire un tirage au sort pour élire les représentants me semble... pas forcément une mauvaise idée, mais me fait poser quand même une question sur un point. Je prends mon cas personnel, je suis étudiant, puis tout d'un coup, je suis élu par tirage au sort pour être représentant au Parlement. Je dis, je suis étudiant, il y a 4 sessions parlementaires par année qui durent chacune 3 semaines. Pour un taux de travail, j'ai regardé grosso modo de 80%. Ça demande quand même une grande implication. Je suis le premier, alors que je suis très impliqué au niveau politique, je suis le premier à refuser à aller au Parlement parce que je préfère axer mes études plutôt que de représenter tous mes pairs au Parlement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait régler ce type de problème? Parce qu'on pourrait là avoir de l'abstentionnisme, non pas au vote, mais directement au niveau de la Chambre fédérale.
Antoine Chollet.
Là, les systèmes sont relativement simples. Donc, si vous tirez au sort pour un bien, d'une certaine manière, et le poste de parlementaire en serait un, vous pouvez vous démettre, évidemment. Et dans tous les systèmes de tirage au sort, on voyait cela, si la personne ne voulait pas être tirée au sort, elle refusait, soit s'il y avait déjà une première sélection, soit tout à la fin, elle pouvait très bien dire « moi, je ne veux pas y aller, donc tirer au sort quelqu'un d'autre ». Si c'est pour une charge, et là, je pense à un exemple très célèbre qui était le cas aux États-Unis jusque dans les années 70, c'est-à-dire le draft pour l'armée. Les personnes qui ont dû aller au Vietnam ont été tirées au sort. Alors là, évidemment, vous ne pouvez pas vous démettre parce que le principe même du tirage au sort serait défait. Et vous avez toute une série de nuances, notamment en Angleterre pour les jurys. Les jurys tirés au sort ont été mis en place précisément pour que des personnes ne puissent plus dire « moi, je n'ai pas envie d'y aller, je paie pour être remplacé par quelqu'un d'autre ». Donc la question a toujours été posée. Ensuite, on peut régler le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire faire des candidats, appeler à des candidatures. C'était le cas pour certains postes à Athènes, notamment pour les jurys. C'est-à-dire, vous deviez vous présenter au début de l'année en disant « cette année, je suis prêt à faire partie des jurys ». Et donc, vous étiez dans ce qu'on appelait l'ailier. Donc, il y avait 6000 citoyens qui pouvaient être tirés au sort chaque jour à peu près pour les jurys populaires. Donc, vous pouvez avoir une présélection d'une certaine manière volontaire ou une démission après le tirage au sort. Et je crois que le système, Génomie imagine quelque chose de cet ordre-là. Avec aussi un autre élément, c'est que les parlementaires, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse, seraient salariés, bien sûr. Donc c'est des personnes qui pourraient être à 100%, enfin plein de temps, parlementaires.
Pascal Mahon, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je crois... Oui, je vais quand même rajouter quelque chose. Non, la question, c'est justement, si on fait un système de tirage au sort, il faut déterminer si la charge est obligatoire, comme c'était le cas dans certaines charges, comme ça vient d'être dit, ou pas. Et puis si elle l'est, il faut trouver des mécanismes de compensation, alors de rémunération, de compensation, etc. Et ce n'est pas si évident que ça, effectivement.
Quelque chose à rajouter, Nenad Stojanovic, Olivier Christin, ou pas? Non? On passe à la question suivante, monsieur.
Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant. Je reviens peut-être dans un cadre plus global, donc le débat de démocratique, je sors du tirage au sort. Vous parliez de la méfiance de certains citoyens et de l'éloignement de la population civile avec les politiques. Et puis, bon, il y a eu les exemples donnés sur la France, ceux sur la Suisse. Il semble qu'il y a là quelque chose de très différent entre le système fédéral et le système plus unitaire. Est-ce qu'en Suisse, on n'est pas en train d'éloigner justement la population civile des politiciens en centralisant le pouvoir et en perdant en fait ces prérogatives qui étaient plutôt cantonales et communales? Et c'est un peu la question que je me pose. Et puis, dans ce même ordre d'idée, aussi la rapidité des médias et de la communication, où j'ai le sentiment que le peuple se plaignait peut-être moins quand les informations allaient moins vite et qu'on se rendait peut-être moins compte des choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des possibilités de réflexion? Enfin, je me réjouis de vous entendre là-dessus.
Qui veut répondre en priorité? Pascal Mahon.
Oui, alors je crois qu'effectivement, c'est une réflexion intéressante. Le fédéralisme contribue au rapprochement des élus et des électeurs ou électrices, hein, c'est clair. Plus vous avez une organisation petite, plus on peut se sentir assez proche des... Enfin, les élus peuvent se sentir proches des électeurs et des électrices, et inversement. Il me semble qu'il y a une assez bonne expérience qu'on a faite dans les constitutions cantonales, dans les révisions des constitutions cantonales. On s'est rendu compte que, sans entrer dans le tirage au sort, mais on a ouvert, au fond, le processus politique, le processus constituant, à ce qu'on a appelé la société civile. Hein. Et c'était précisément... Alors, on l'a ouvert de manière plus ou moins démocratique, de manière plus ou moins forte, etc., mais on voit encore ça maintenant en Valais, où il y a une révision qui est en cours, il y a une assemblée constituante, où les partis se mettent d'accord pour ouvrir une partie. Hein, c'est comme si on soumettait une partie de la constituante au tirage au sort, mais là, ce n'est pas du tirage au sort, c'est de l'élection, mais on est présenté, non pas par les partis traditionnels, mais on dit que c'est la représentation de la société civile, appel aux citoyens, enfin, il y a toutes sortes de mouvements qui se créent, et on voit... C'était un peu le point de départ de la réflexion. On disait qu'il y a un certain éloignement entre les élus et la base, si vous voulez, les citoyennes et les citoyens. Et on voit que c'est peut-être plus facile de faire ce rapprochement dans des entités plus petites. Donc je pense qu'effectivement, le fédéralisme a une influence. De là à dire qu'on centralise... Enfin, en Suisse, on n'est encore pas très centralisateur. Évidemment, il y a un mouvement centralisateur, mais... je pense qu'on est encore relativement protégé comparé à d'autres systèmes. Mais effectivement, c'est plus difficile d'ouvrir le Parlement fédéral à la société civile que les assemblées constituantes.
Antoine Chollet, je vous ai vu prendre des notes. Est-ce que c'était à ce propos ?
Non, c'était juste pour ne pas oublier les questions qui avaient été posées. Mais bon, sur le fédéralisme, on voit que c'est une affaire compliquée parce que le taux de participation et l'engagement des citoyens et des citoyennes dans les élections locales, à la fois comme candidat ou comme électeur, électrice, est relativement faible. Il y a un certain nombre de communes qui ont dû être mises sous tutelle parce qu'il n'y avait plus personne qui était d'accord d'aller dans le conseil communal pour le canton de Neuchâtel, la municipalité pour le canton de Vaud, enfin l'exécutif. Donc le problème se pose, enfin c'est un petit peu plus compliqué sans doute, mais en revanche le fait qu'il y ait une articulation entre démocratie et fédéralisme, ça me paraît tout à fait évident. C'est-à-dire c'est bien parce qu'on a des communautés locales, communales, de quartier aussi dans les plus grandes villes qui sont animées politiquement que l'on peut avoir une démocratie au niveau central, ça c'est tout à fait évident. Et sur les médias, j'avais juste une petite chose à ajouter. Je pense que c'est une erreur de croire que la réactivité médiatique a augmenté ces dernières années. Jusque dans les années 50 ou 60, la NZZ, donc le grand journal zurichois, avait 3 éditions quotidiennes, tous les jours. Donc il y avait une édition du matin, une édition à midi, une édition du soir, qui est évidemment plus courte que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais vous aviez une couverture médiatique permanente. Il y avait la radio déjà, il n'y avait pratiquement pas de télé en Suisse. Mais vous aviez quelque chose qui ressemblait déjà à cette information permanente. Et regardez des vieux films américains, des films des années 40-50, vous avez toujours des journaux dans la rue, édition spéciale, ça vient de sortir, etc. C'est le fil de dépêche AFP ou ATS, tant qu'elle existe encore, qui était mis immédiatement dans les médias. Donc je ne crois pas que ce soit... Il y ait un lien entre ces deux choses. En revanche, ce qui est très important, bien sûr, c'est qu'il y ait une une politisation de la société, tout simplement. Ça c'est l'un des enjeux qui fait très peur à toute une série de grands penseurs politiques, d'ailleurs. Vous savez, quelques-uns des fondateurs de la science politique américaine disaient qu'il ne faut pas trop de participation populaire, parce que sinon, ça devient dangereux si le peuple est trop au courant de ce qui se passe. Et au contraire, je pense que la démocratie s'appuie précisément sur cette politisation. Alors, il y a d'autres facteurs. L'un ben, ces grands facteurs, c'est la désaffection de certaines grandes organisations qui précisément politisaient des sections importantes de la population. Je pense en particulier aux grands partis, et notamment aux partis de gauche et aux syndicats. Et là, vous avez une corrélation directe entre le fait que ces partis et ces syndicats sont devenus complètement ridicules en France, en Suisse, un peu moins en Europe du Nord pour des raisons un peu différentes, ou aux États-Unis, et la dépolitisation de secteurs importants de la population.
Monsieur, alors le micro va vous parvenir. Voilà.
Merci. Alors moi j'avais une question qui portait sur une interrogation que j'avais sur un moyen de peut-être faire baisser encore le taux de participation. C'est-à-dire que pourquoi, à l'heure actuelle, avec les technologies de communication qu'on a, on a encore besoin de passer par l'intermédiaire des élus, d'une classe dirigeante comme ça? On pourrait très bien supposer que chaque personne puisse bénéficier... On bénéficie tous de sources d'informations qui sont maintenant très abondantes. On pourrait imaginer que toutes les personnes intéressées sur un sujet puissent voter sur ce sujet-là, hein, par un vote électronique, et qu'on n'ait pas besoin de passer par des intermédiaires politiques. Si on a envie de suivre un parti politique, un groupe de pensée, on pourrait très bien être libre de le suivre là-dessus. Mais par rapport au problème du tirage au sort qui pouvait rendre la corruption plus facile, eh bien là, je trouve que ça la rendrait plus difficile de devoir corrompre la totalité de la population pour pouvoir acheter un vote. Donc, est-ce que vous avez des exemples comme ça qui ont déjà existé? Est-ce que ça a déjà été dit?
Merci. C'est pas une idée très neuve. Hein. Vous avez un texte de 1851 qui s'appelle « La législation directe par le peuple » d'un certain Rittinghausen. C'est un fourriériste allemand qui a eu pas mal d'influence en Suisse parce que c'est l'un des textes qui a été utilisé pour mettre en place ce qu'on appelle la démocratie directe, précisément. Et alors, sa proposition allait beaucoup plus loin que ce que l'on a aujourd'hui en Suisse et visait précisément la suppression du Parlement. Alors, la question qu'il faut se poser, parce qu'on peut imaginer, OK, on vote et on pourrait voter plus que 4 fois par année sur davantage de textes. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 cantons suisses qui votent sur toutes leurs lois, hein, Glaris et Appenzell. Toutes les lois sont mises au vote 1 fois par année, au printemps. Le problème, c'est qui rédige les propositions de loi? Et donc, Rittinghausen a un système extraordinairement complexe où il y a des assemblées primaires qui émettent un avis, puis ensuite, il y a quand même une commission de conciliation qui essaie de rédiger un texte qui ensuite est renvoyé à tout le monde. Et donc, ça prendrait beaucoup de temps. C'est pas forcément complètement impossible, hein. Si on pense à certaines négociations internationales, ça se passe à peu près comme ça. Mais c'est peu réactif, disons. Mais ça, il faut se poser cette question, disons. Si vous ne voulez plus de Parlement, vous devez quand même avoir un système qui permette de rédiger les propositions. Et précisément dans les cantons de Glaris et Appenzell, il y a des parlements, c'est pas, la Landsgemeinde ne remplace pas le parlement, vous avez le Landrat dans les deux cas, qui vote les lois au cours de l'année, et ensuite ces lois sont mises au vote une fois par année, et qui aussi évalue les propositions de la population. Ça c'est l'autre chose, si une personne tout à coup fait une proposition, il faut bien qu'elle passe par une procédure d'une manière ou d'une autre. Comme dans le canton de Zurich connaît l'initiative individuelle, si elle est acceptée par un cinquième ou un quart des voix du Grand Conseil, je n'ai plus le chiffre en tête, cette proposition est mise au référendum, donc au vote sur l'ensemble de la population. Donc il y a toute une série de propositions qui ont été faites et donc qui datent encore une fois du 19e siècle et qui sont très directement liées à l'histoire suisse. Puisque si la Suisse a mis en place les procédures de démocratie directe, c'est via, ce qu'on oublie souvent, via ces milieux fourriéristes liés à Victor Considérant également, qui étaient plutôt des milieux liés aux proto-socialistes, le Parti Socialiste n'existait pas encore, ce qu'on appelle le mouvement démocrate en Suisse, donc dans les années 1850-60, et qui, d'abord dans les cantons, puis ensuite au niveau fédéral, vont mettre en place les référendums, les initiatives et tout ce que l'on connaît.
Olivier Christin ?
Non, pas particulièrement, parce que je parlerai du cas français, sauf qu'une partie de ce que vous dites, pas tout, hein, évidemment, se trouvait dans le projet de 5 étoiles, du mouvement 5 étoiles. C'était un mouvement, c'est aussi un mouvement anti-élite, en pensant que les techniques de l'information d'aujourd'hui permettraient de se passer du rôle de la décision parlementaire. On voit les difficultés de mise en œuvre de ce programme aujourd'hui, 5 étoiles. Mais je trouve toute cette discussion, elle porte, et je trouve qu'elle est intéressante. Alors, vous, c'est une question un peu particulière, mais les autres questions se portent sur la question de la représentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une représentation politique juste ou équitable ou efficace? Et on voit bien que c'est pas juste des choix de tirer au sort ou pas tirer au sort, élire ou pas élire, ou de règles électorales. Il y a aussi le choix du bicaméralisme, par exemple, en France, en ce moment, il y a une discussion sur le rôle du Sénat régulièrement. Le Sénat représente quoi? Il représente les territoires, mais c'est quoi représenter les territoires? Ce qui représente le peuple souverain quand même. Le rôle du Conseil économique, social et environnemental, qui est un peu j'espère que ça sortira pas de cette pièce, un peu une maison de retraite pour anciens syndicalistes, anciens membres de cabinet, c'est mon rêve d'être là, bien sûr, qui deviendrait une troisième chambre représentant la société civile. On voit qu'il y a un débat très intense, voilà, sur ces questions de représentation, représentativité, et la question, et le tirage au sort prend place dans ces interrogations.
Quelqu'un d'autre a une question? Monsieur?
Moi, au niveau des élections, je me demandais, enfin, il me semble assez clair qu'il y a une différence entre la campagne d'un chef d'entreprise millionnaire dans un parti bien établi et d'une caissière à 3000 francs par mois indépendante. Je me demandais quelle est votre vision de cette influence justement de la situation économique sur les élections. Merci.
Nenad Stojanovic, oui.
Oui, lorsque je disais tout à l'heure, en parlant de tirage au sort, que les élections sont très inégalitaires parfois, voire souvent, c'est l'un des aspects. C'est que avec beaucoup d'argent, vous pouvez acheter, vous payez une campagne électorale qui vous garantit l'élection et si vous n'avez pas cet argent, vous n'avez pas cette possibilité. C'est pour cette raison que c'est important de au moins avoir la transparence sur combien les candidats dépensent dans la campagne. Ça serait déjà un pas qu'on n'a pas encore en Suisse. On pourrait aller un petit peu plus, être un peu plus au-delà de mettre des plafonds, genre maximum 10 000 francs par personne et par campagne. Voilà, ça serait aussi une possibilité. Mais je pense que, voilà, commençons par avoir au moins un peu de transparence. Il y a une initiative fédérale sur la transparence. Donc les signatures sont déposées. Donc on va voter sur ça en Suisse dans peut-être 2 ans. Le Conseil fédéral s'y oppose pour l'instant, mais le Parlement, il a pas encore décidé qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Donc là, par exemple, si vous dépensez plus que 10 000 francs si vous financez les campagnes de votation ou les élections avec plus de 10 000 francs, vous devez le déclarer et ça va être publié. Donc ça, c'est un petit peu un pas dans cette direction. Mais en général, j'aimerais juste conclure. Lorsqu'on parle des élections, ce n'est pas seulement l'argent qui crée cette inégalité. Il y a d'autres. Parfois, les électeurs peuvent agir d'une manière telle qu'ils rendent la probabilité de l'élection d'une personne plutôt que de l'autre différente. C'était mon projet de recherche ces derniers 3 ans à Lucerne, où nous avons voulu examiner selon quel patterns les électeurs suisses biffent les candidats sur la liste. Parce qu'en Suisse, c'est l'un des rares pays où vous pouvez biffer les candidats. Et par exemple, nous avons vu que si vous avez un nom de famille qui n'est pas typiquement suisse, selon une base de données de tous les noms de famille suisses, ben, vous avez moins de chances d'être élu. En contrôlant pour tous les autres facteurs, juste avoir un nom de famille qui n'est pas considéré comme suisse, ben, vous êtes biffé un peu plus souvent, pas d'une manière énorme, mais quand même. vous perdez au départ quelque chose par rapport aux candidats qui ont de la chance d'avoir un nom de famille qui est considéré comme suisse.
Antoine Chollet.
Oui, quelques commentaires là-dessus. Sur les règles de limitation des dépenses de campagne, c'est, la Suisse est une espèce de dinosaure. Hein. Il y a un vrai problème là-dessus. Il faut absolument que les choses bougent. Et on ne prend pas exemple sur des pays épouvantablement socialistes ou communistes comme la France, par exemple. Mais les États-Unis, jusqu'à une décision de la Cour suprême pendant le premier mandat de George Bush, limitait les dépenses électorales des deux grands partis. Alors, ça posait d'autres problèmes parce que les petits partis, de toute façon, ne pouvaient pas dépenser autant. Mais vous regardez les dépenses pour l'élection présidentielle en 2000, en 1996, en 1992, en 1988, elles sont à peu près identiques pour les deux grands candidats, donc Parti démocrate, Parti républicain. Tout simplement parce qu'on sait bien qu'une différence d'argent dans une élection a une importance. Il y a d'ailleurs un livre de collègues américains qui vient de sortir qui dit « Combien coûte une élection ?» Et aux États-Unis, cette affaire est devenue extrêmement importante parce qu'en effet, il n'y a plus de plafond et donc les sommes sont complètement délirantes. Mais j'ajoute comme quelque chose qui nuance un tout petit peu ce que je viens de dire. Vous savez que Trump a dépensé moins d'argent que Hillary Clinton. Et donc, on peut essayer d'acheter une élection, mais ce n'est pas une garantie absolue. Et on le voit aussi en Suisse pour toute une série de référendums. Alors, le dernier que j'ai en date, en tête, c'est celui sur la RIE3, où les forces, enfin, l'argent mis en avant par le comité référendaire était infiniment inférieur à celui des personnes qui défendaient le texte. Et on a toute une série d'autres exemples, y compris pour des initiatives, d'ailleurs, y compris pour des initiatives, pas seulement des référendums. Donc, voilà, on ne peut pas non plus, vous mettez de l'argent, mais l'achat n'est pas garanti. Et puis, la question plus générale, parce que ça pose une question vraiment de fond sur la démocratie, cette affaire d'argent, c'est celle des inégalités économiques dans une démocratie. Et là aussi, si vous reprenez les textes depuis la Grèce ancienne jusqu'à aujourd'hui, tous les auteurs démocrates ou républicains, tous ceux qui parlent de la démocratie ou de la République, généralement les deux termes sont difficiles à distinguer pendant assez longtemps, vous disent toujours, Rousseau par exemple, Aristote aussi, que dans une république ou dans une démocratie, les différences de fortune, les différences, ce qu'on appellerait aujourd'hui les inégalités économiques, doivent être limitées. Si les fortunes sont trop, s'il y a de trop grandes fortunes ou des personnes qui sont trop pauvres, la République est bien prête de s'effondrer. Et ça, c'est un principe auquel on doit se souvenir, je crois, spécialement aujourd'hui, parce que là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir lu les 1000 pages de Piketty pour savoir que les inégalités ont beaucoup augmenté depuis 30 ou 40 ans pour des raisons assez claires et assez simples à comprendre en réalité, et que nous ne sommes plus dans une situation... Enfin, les sociétés d'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ne sont plus les sociétés de l'après-guerre. Quand vous savez qu'aux États-Unis, dans les années 50, la dernière tranche d'impôt était imposée à 94% aux États-Unis, vous comprenez qu'on a changé, de monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, je crois que ça vous est aux alentours de 25 ou 30%.
Pascal Mahon.
C'est pour ça que je pense que ce qui vient d'être dit est très important, et c'est pour ça que, pour tendre une lance en faveur du tirage au sort, dans le tirage au sort, il y a deux aspects. Il y a un aspect, on l'a dit historiquement, de lutte contre la corruption. Alors, ça n'a pas forcément très bien marché à travers l'histoire. Mais il y a quand même cette idée de l'égalité d'accès. Et cette idée-là, je trouve qu'elle est assez importante. On la retrouve dans l'initiative dont Nenad Stojanovic est membre du comité d'initiative pour l'élection, pour la désignation par tirage au sort des juges fédéraux. Alors, je pense que ce serait assez difficile à mettre en place. On pourrait en discuter et en débattre. Mais je trouve que si on regarde aujourd'hui le mode de désignation de nos juges fédéraux, il n'y a pas un accès pour tout le monde, indépendamment de la compétence, hein, parce qu'il faut avoir des compétences juridiques, on est d'accord, mais il y a un monopole, il y a une exclusivité de l'appartenance politique à un parti, et donc cette idée-là, elle est assez intéressante. Alors je pense que le tirage au sort apporte, dans la réflexion en tout cas, quelque chose d'intéressant dans nos démocraties, justement, parce que cette égalité économique, cette abolition ou cette réduction des disparités, elle n'existe pas pour l'instant. Donc je pense que le tirage au sort, et j'espère que l'initiative recueillera 100 000 signatures pour qu'on puisse en débattre, je ne suis pas sûr qu'elle est facile à mettre en œuvre. Je ne suis même pas sûr que... Parce qu'on va retrouver les mêmes problèmes dans la désignation de cette commission d'experts, etc. Ce ne sera pas nécessairement plus transparent qu'aujourd'hui. Mais je crois qu'au-delà des règles sur la transparence du financement de la politique, pour lequel on est effectivement en retard et qu'on doit régler, il y a quand même la question de fond, de cet accès égal aux charges publiques. Et je pense que ça mérite une réflexion.
Une question encore dans le public ? Monsieur ?
Bonsoir, j'ai une question concernant le système de référendum révocatoire mis en place aux États-Unis, donc dans certains États. Donc, je veux savoir
ce que... Le micro devant la bouche, c'est mieux.
Le référendum révocatoire, donc c'est un système qui permet, sur la base... il faut qu'il y ait un certain nombre de pourcentages des électeurs qui décident de... Ils veulent révoquer leur élu pour, suite à des manquements. Et donc, ensuite, ils engagent du coup un référendum. Et puis, du coup, les électeurs, ils tranchent. Donc, on l'a vu avec l'actualité récente, avec l'affaire Pierre Maudet. Donc, ça pourrait être intéressant aussi, d'autant plus qu'en Suisse, on a un système fédéral comme dans les États-Unis.
Pascal Mahon.
Alors, ça s'appelle le recall aux États-Unis. Donc, ça existe dans certains États. Ça existe aussi en Suisse. Dans 7 cantons suisses, on a... c'est une sorte d'initiative populaire dont l'objet n'est pas de faire voter sur un projet de loi, ou etc., mais c'est l'objet de cette initiative populaire, c'est de révoquer alors tout le gouvernement, ou parfois tout le gouvernement et tout le Parlement. Donc c'est une espèce de dissolution provoquée par une fraction de la population qui soumet à l'ensemble de la population la proposition de révoquer les élus. Je crois qu'on n'a jamais...
Il y a eu quelques
exemples au 19e siècle, mais dans la période moderne, il n'y a pas eu de dissolution... Alors, ça existe au Tessin, dans 6 cantons alémaniques. Et puis, Neuchâtel vient de mettre en place un système de destitution, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
Antoine Chollet, attrapez le micro.
Juste un point. Donc, les États-Unis ont mis ça en place, comme tout leur mécanisme de démocratie directe, en venant s'inspirer de la Suisse. Donc, vous avez toute une série d'Américains qui sont venus visiter la Suisse dans les dernières décennies du 19e siècle, qui faisaient partie, chère Nénade, du mouvement populiste, et qui ont réimporté cette idée aux États-Unis dans à peu près la moitié des États actuellement. Donc, comme Pascal l'a dit, il y a un certain nombre de cantons qui existent, mais en Suisse, ça pose un problème, parce que pour quelle raison est-ce qu'on doit démettre l'ensemble d'un conseil d'État ou l'ensemble d'un Parlement ? C'est qu'on a un scrutin proportionnel. Si vous avez un scrutin proportionnel pour un organe collégial, vous êtes obligé de démettre tout le monde parce que personne n'a eu de majorité absolue et donc il suffirait de lancer un recall contre n'importe qui et vous seriez garanti d'avoir une majorité contre chacun des individus sauf personne qui fait un score mirifique comme par exemple Pierre Maudet, mais il le ferait peut-être plus aujourd'hui. Non, mais c'est un point qui est important. C'est-à-dire le recall est forcément lié pour avoir une efficacité, une utilisation assez régulière, et c'est le cas aux États-Unis, parce que ça n'existe pas que contre les gouverneurs, doit être lié à des postes uniques, et donc pas des exécutifs collégiaux, et à des élections à la majoritaire. Et donc là, vous avez une espèce de tension, parce que en général, on considère que l'élection proportionnelle est plus démocratique que l'élection majoritaire. Et donc, si vous avez de l'élection proportionnelle, le recall est un outil extrême, qui est un outil de dissolution. Mais la dissolution d'un gouvernement, il faut quand même qu'il y ait des choses très graves qui se soient passées pour qu'on décide de dissoudre, enfin de renvoyer tout le monde à la maison. Même chose pour un Parlement. Imaginez le séisme que provoquerait la dissolution d'un Parlement en cours de législature, sachant qu'on n'a pas des législatures infinie non plus en Suisse, tous les 4 ans, c'est pas si long que ça. Donc, enfin, c'est 4 ou 5 ans. Donc, voilà.
Monsieur, vous voudriez rajouter quelque chose avant qu'on prenne une autre question ? Monsieur.
Il y avait une question là-bas.
On va commencer là-bas, oui. Le micro vous arrive, voilà.
Merci. Une petite question, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé la question de la formation de l'opinion, de qu'est-ce qui peut être fait pour... je ne sais pas, c'est Antoine Chollet qui a évoqué l'idée d'organiser plus de débats, de choses, d'éléments qui permettent de faire en sorte à la fois d'améliorer la participation et l'expertise de la population en général sur ces questions-là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme piste parmi vous quatre, et puis qu'est-ce que vous leur accordez comme crédit, et qu'est-ce qui est intéressant dans ce domaine-là ?
Formation de l'opinion. Ça vous laisse un peu pantois ?
Non, pas du tout, c'est très important. Je pense qu'on est tous d'accord que lorsqu'on dit on est en faveur de la démocratie directe, on n'est pas vraiment en faveur avec l'idée les citoyens, ils ont un objet de référendum, et puis ils disent oui ou non sans réfléchir de manière arbitraire, aléatoire, etc. Non, l'idée, c'est qu'ils s'informent, qu'ils en discutent avec d'autres citoyens et citoyennes, qu'il y ait un débat public. Donc on peut, je pense, en Suisse, on fait déjà beaucoup. Les médias jouent quand même un rôle. C'était par exemple l'une des critiques qui m'a été adressée par quelqu'un qui connaît bien ce domaine, en me disant ce modèle d'Oregon que j'aimerais essayer d'appliquer en Suisse. Ils me disent oui, aux États-Unis c'est important parce que là les médias sont très polarisés, il n'y a pas vraiment un véritable débat, etc., etc. En Suisse probablement il y aura moins besoin de quelque chose comme ça parce qu'on a des débats beaucoup plus poussés dans les médias, dans des cercles comme celui-ci, dans des petites réunions, des assemblées, Stammtisch, etc., etc. Bref, quand même, je pense que l'une des façons de favoriser cette formation de l'opinion, ça pourrait être, encore une fois, l'idée de prendre par le tirage au sort un certain nombre de citoyens et de les laisser discuter sur des objets importants. Ça pourrait être en Belgique, ils ont fait une fois 1000 personnes ont été sélectionnées comme ça pour débattre d'une question importante. Bien sûr, il y a aussi l'effet de multiplication. Chacun ensuite va en parler avec les familiers, les amis, etc., etc. Donc il y a des façons pour envisager d'améliorer encore cet aspect-là.
Olivier Christin.
Votre question est très importante, y compris en dehors du système de démocratie directe dans des pays comme la France ou les États-Unis. Mais le problème, c'est que ça se heurte à deux forces contraires de ça. L'une, c'est que historiquement, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, ont été conçus comme des outils pour lutter contre la propagande d'État des totalitarismes. Il fallait que les citoyens soient entourés d'une multiplicité de sources d'informations que personne ne peut contrôler, qu'aucune puissance étatique ne puisse contrôler la totalité. C'est les travaux de Fred Turner. Et que, objectivement, ces nouveaux médias se sont retournés en autre chose qu'un instrument de parfaite information de citoyens qui iraient chercher librement les informations dont ils ont besoin. Et on a, au contraire, des bulles, des biais cognitifs, des bulles d'entre-soi, où les gens ne lisent plus que les sites qui confortent ce qu'ils pensent, ne se lisent plus qu'entre eux et sont tous d'accord, puisqu'ils ne lisent que les sites qui disent les mêmes idées qu'eux. Voilà. On voit comment on a produit, ça s'est produit exactement le contraire de ce qu'on imaginait que seraient ces médias. La deuxième force contraire, c'est par exemple le débat sur la réforme constitutionnelle en France ou dans d'autres lieux sur la question de l'efficacité parlementaire. Il faudrait qu'on aille plus vite, que le Parlement tranche plus vite, qu'il y ait moins de députés, que ça aille plus vite. Et cette idée est contraire avec ce que vous venez d'indiquer, c'est que la démocratie, ça prend du temps. Et que aller vite n'est pas forcément un gage de bon travail parlementaire. Et l'idée de réduire, par exemple en France, le nombre d'amendements, de réduire le temps de parole des députés en fonction du poids de leur groupe parlementaire, etc., sera une catastrophe démocratique. Voilà.
Antoine Chollet.
Deux points. Alors, premièrement, je vais faire plaisir aux journalistes dans la salle en lui disant, mais il sera d'accord avec moi, que l'une des institutions absolument déterminantes là-dedans, c'est l'existence d'un service public des médias. Et je le dis parce qu'on est sorti d'une grosse campagne un peu difficile à mener à ce propos-là. En Suisse, il est absolument déterminant d'avoir un service public des médias, télévision, radio, autre chose aussi, en sachant qu'il ne se substitue pas aux journaux et que ce sont deux réalités complètement différentes et qu'il faut avoir ces deux réalités différentes, mais il est toujours très inquiétant de voir les médias publics attaqués, que ce soit en France d'ailleurs, aux États-Unis évidemment, ou en Suisse. Et l'autre argument l'autre institution dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on l'oublie tout le temps, c'est l'école. C'est-à-dire la première institution de formation de l'opinion publique, c'est l'école, conçue dans un sens très large, hein, des toutes petites classes jusqu'à l'université, jusqu'à la formation dite supérieure. où la politique doit avoir sa place d'une certaine manière. Et je pense que la meilleure école de la citoyenneté, c'est d'organiser des débats à l'école avant les référendums. On en a suffisamment en Suisse précisément pour donner de très bons arguments pour l'organisation de ces débats. Et en général, comme l'avait dit Jean-François Aubert il y a déjà très longtemps, ce ne sont pas des questions qui sont indignes d'occuper l'esprit de nos concitoyens, les questions qui sont posées lors des référendums et des initiatives. Parfois, il y a des questions un petit peu farfelues comme cet automne, mais enfin, en novembre sur les vaches, mais la plupart du temps ce sont des questions importantes. On discute de la retraite, on discute de l'alimentation, on discute de la politique étrangère. Ce sont toutes des occasions de débat, et qui ne sont pas simplement des débats disons dans les salons littéraires, mais c'est des débats qui conduisent à des décisions en Suisse. Donc c'est extrêmement important que les gens soient au courant de ce genre de choses. J'ajoute aussi une dernière chose, parce qu'on a à Neuchâtel, il faut un service de statistiques qui fasse bien son boulot. Alors l'OFS le fait, mais n'a sans doute pas suffisamment de moyens pour le faire. La nécessité d'avoir des études statistiques sérieuses avec des très longues séries où on peut faire des comparaisons historiques, ça c'est tout à fait déterminant. Si ça vous intéresse, il y a un livre en allemand de mon collègue Hans-Ulrich Jost sur l'histoire des statistiques en Suisse qui montre que les statistiques ont toujours été affaiblies en Suisse. On n'a pas donné suffisamment de moyens pour faire des statistiques, ou on leur a demandé de faire des choses complètement absurdes, par exemple compter le nombre de ruches dans toutes les communes, pour ne pas avoir des statistiques importantes, le revenu cantonal, les inégalités économiques, et enfin toutes les variables extrêmement fortes qui peuvent orienter les politiques, aussi orienter tous les citoyens. Il y a un autre problème aussi par rapport aux statistiques, c'est les séries. Vous avez sur toute une série de sujets, tout à coup il y a des séries qui manquent. C'est le cas du logement, vous avez des chiffres jusque dans les années 50-60, puis après ça finit, puis après ça recommence dans les années 80 ou 90. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est totalement inutilisable, il faut vraiment être très attentif à ce genre de choses. Service statistique d'ailleurs, dernier commentaire, qui pourrait aussi s'occuper, par exemple, la détermination du budget de la Confédération, puisqu'on voit que le département fédéral des finances n'est pas capable de faire des budgets. Dans la plupart des autres pays, notamment aux États-Unis, c'est le Parlement qui s'occupe de ça. L'office du budget du Parlement, du Congrès américain, est beaucoup plus cru que ce que sort le département de l'économie, parce qu'on sait bien qu'ils vont essayer d'orienter le budget dans le sens de ce que veut l'administration, alors que le Parlement a, disons, un impératif de neutralité ou d'objectivité par rapport à ce budget, parce qu'il est bipartisan, tout simplement. Et ça, je suggérerais peut-être aux parlementaires de mettre ça en place en Suisse, puisque, encore une fois, on sort de 10 ans de très grosses différences entre le budget et les comptes de la Confédération.
Pascal Mahon, pour terminer, vous avez le dernier mot de la soirée.
Non, alors très brièvement sur cette question de la formation, je crois qu'on a tout ce qui a été dit est important, mais le système lui-même contribue à la formation. Moi, ça m'a toujours frappé quand on explique le système suisse à l'étranger. On nous dit, mais comment ça marche, comment les citoyens font pour être au courant, pour se tenir au courant, etc. Mais le système lui-même alimente, parce qu'on est en débat permanent, on vote tous les 3-4 mois. Donc, et il y a des discussions dans les médias, il y a des débats. Donc je pense que ça, c'est aussi très important, ce phénomène d'auto-alimentation du système lui-même, malgré les défauts. Enfin, je ne veux pas nier qu'il a des défauts et puis qu'il y a des biais, mais je crois que ça contribue aussi à la formation de la maturité politique de la population, le système lui-même.
Antoine Chollet, Olivier Christin, Nena Stojanovic et puis Pascal Mahon, merci beaucoup. Je laisse le tout dernier mot de la fin à Igor Chlebnyov, à vous.
Merci beaucoup. Merci à Pauline Frolix pour la présentation et l'animation de cette soirée. Nos excuses pour les caprices de la porte de derrière les intervenants. Indépendant de notre volonté. Quoi qu'il en soit, je vous redonne rendez-vous dans un mois, ici même, le 24 octobre, où on abordera une question un peu plus culturelle, un peu plus artistique, quoique, puisqu'on parlera des dystopies, est-ce une réalité, donc les dystopies, les utopies négatives, tous les amateurs de science-fiction, de catastrophes, est-ce que la réalité est en train de rejoindre une triste fiction? Voilà, ce sera le débat. On aura la chance d'avoir notamment la directrice du NIF en personne qui viendra ici, Anaïs Emery, et ainsi que Marc Attala parmi les invités, donc le directeur de la maison d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous donc au 24 octobre. Merci de votre fidélité et merci encore pour cette soirée.
Merci beaucoup.